Bonjour à tous. Quelle belle prière que celle que nous venons de chanter. Cette prière de David que l'on trouve dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Cette prière d'humilité où David reconnaît que même lui, il n'est pas toujours très clairvoyant sur ce qui se trouve au fond de son cœur, qui sent qu'il peut se tromper. Et qu'il a vraiment besoin que le Seigneur l'éclaire, que nous puissions toujours avoir cette disposition magnifique de David. Hélas, il n'a pas toujours eu les bonnes dispositions, en tout cas dans cette prière, elle l'est vraiment. Connaissez-vous la différence entre une promenade et une course en montagne ? Le danger, l'équipement, l'effort, le dénivelé, on pourrait se promener sur une pente. Hein. Oui, il y a tout cela, mais il me semble que la première grosse différence, c'est la course, elle a un but à atteindre. Un coursier, c'est quelqu'un qui va d'un endroit à un autre. La course en montagne, elle vise un but à atteindre, généralement un sommet. Un col, une crête, un refuge, mais on part avec l'idée d'atteindre un but. Alors pas forcément le plus rapidement possible, mais le plus sûrement possible. Et on va généralement essayer de prendre le chemin le plus rapide, qui n'est pas forcément le plus droit, hein, pour y arriver, le chemin le plus évident. La promenade, on n'a pas forcément un endroit précis où on veut aller, c'est juste de profiter de la nature. Et je vous propose ce matin l'idée que la vie chrétienne n'est pas une promenade. C'est pas une idée nouvelle. Hein. Hébreux 1 nous parle déjà d'une course qu'on est appelé à courir en gardant les yeux fixés sur le but qui est Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas une promenade. Nous avons un but à poursuivre. Nous avons un cap à maintenir. Nous devons avancer et progresser. Où en sommes-nous ce matin ? Dans notre marche avec Dieu. Sommes-nous en marche ? Sommes-nous en promenade ? En profitant un peu de ci, un peu de ça ? Ou gardons-nous les yeux fixés sur le but ? Et avons-nous vraiment le désir d'avancer, de progresser comme David dans sa prière ? Montre-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un chrétien vivant est un chrétien en marche vers le but. Et ce matin, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le Nouveau Testament, au livre des Hébreux. Au chapitre 12, et nous allons examiner deux objectifs. Parce que pour pouvoir marcher vers le but, il faut peut-être que l'objectif soit clair, qu'on ait bien l'objectif à l'esprit. Et dans ce chapitre, il nous propose deux objectifs et deux moyens pour notre marche avec Dieu. Hébreux 12, les versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Deux objectifs, on les trouve dans le verset 14. Quels sont-ils ? La paix avec tous. Et le deuxième, la sanctification. C'est un mot un peu compliqué, hein, ou abstrait peut-être pour nous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Rechercher, ça peut être aussi traduit, vous avez peut-être ça dans vos Bibles, par poursuivez. La Bible du Semeur dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous et mener une vie de plus en plus sainte. Il y a une notion de recherche, de poursuite. C'est vraiment un objectif à poursuivre que nous devons avoir à l'esprit. Ça doit être notre préoccupation. recherchée, préoccupation constante de notre vie chrétienne. Alors, premier objectif, la paix avec tous. Il n'est pas dit la paix avec le plus grand nombre. Et c'est là où c'est dérangeant. Il est dit la paix avec tous. Peut-être on pourrait objecter, moi, je suis en paix à peu près avec tout le monde. À peu près. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas d'à peu près. Là, on nous dit la paix avec tous. Est-ce qu'on est en paix avec tous? Ah non, mais un tel, c'est différent. Un tel, lui, non, je ne peux pas. De toute façon, je ne peux pas pardonner ce qu'il a fait. Je ne peux pas être en paix avec cette personne. Rechercher la paix avec tous. Dans Éphésiens 4, 1 à 3, Paul dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et c'est là que ça nous intéresse le plus, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le lien de la paix. Ça veut dire que la vraie paix, c'est pas une absence de relation, puisque c'est le lien de la paix. La vraie paix, elle se vit dans la relation. Et parfois, on peut avoir l'illusion d'être en paix avec tout le monde, parce que les gens avec qui on ne s'entendrait pas bien, c'est pas compliqué, on n'a pas de relation avec eux. On pourrait même imaginer une église tout à fait paisible, mais dont certaines personnes ne se parlent jamais. La vraie paix, ce n'est pas simplement l'absence de conflit ou l'absence de guerre. Favoriser la paix, ça ne consiste pas à ne pas faire de vagues ou à veiller à ce que personne ne soit dérangé. La semaine dernière, j'ai visité avec les enfants l'exposition Martin Luther King. Et je regrette de ne pas avoir visité celle de l'année dernière. Enfin, c'était l'exposition sur le baptisme. Je pense à l'exposition de l'année dernière sur Martin Luther King. Et je me suis arrêtée donc, notamment sur ce panneau au sujet de Martin Luther King. Et je regrettais de ne pas avoir été à l'exposition l'année dernière. Et il y a une citation de Martin Luther King qui m'a interpellée, qui m'a fait réfléchir, qui dit « J'en arrive presque », c'est Martin Luther King donc, qui parle, ce pasteur américain qui a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis par la non-violence. Il dit « J'en arrive presque à la redoutable conclusion » que le plus rude obstacle à la liberté des Noirs n'est pas le White Citizen Counselor, donc c'est les citoyens blancs, ni le membre du Ku Klux Klan, mais bien le blanc libéral qui préfère l'ordre à la justice, la paix négative, parce qu'il n'y a pas de tension, à la paix positive, où règne la justice. La compréhension superficielle des gens de bonne volonté est plus décevante que la totale incompréhension des adversaires. L'acceptation tiède est plus déconcertante que le refus absolu. Et l'idée que j'ai trouvée intéressante, c'est la paix négative et la paix positive. La paix négative, celle qui cherche à ce qu'il n'y ait pas de tension, c'est une paix passive, c'est-à-dire on ne fait rien. Comme ça, on ne crée pas de tension. Mais en l'occurrence, dans cette situation-là, ça veut dire aussi on ne fait rien pour améliorer la justice par rapport à la ségrégation à l'époque en particulier. La paix positive, c'est la vraie paix, c'est celle qui nécessite du courage, de la persévérance, qui accepte d'être dérangée, voire de déranger, car elle est fondée non seulement sur l'amour et la grâce de Dieu, mais aussi sur sa justice et sa sainteté. La vraie paix se vit dans la relation. Deuxième objectif, la sanctification. Alors j'ai noté la sanctification et non la sainteté. C'est quoi la différence? Eh bien, la sainteté, c'est un état. La sanctification, c'est une progression vers la sainteté. C'est une marche. C'est une dynamique. La sanctification, c'est notre progression vers la sainteté, vers notre but final, la stature parfaite de Christ. Paul dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification à la stature parfaite de Christ. Or, on sait que la perfection, ça ne sera pas sur terre. En tout cas, pas sur cette terre-là. Ce sera pour après. Mais nous devons être en route. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre degré de sainteté, c'est notre progression vers la sainteté. Et on ne part pas tous du même endroit, donc on ne peut même pas se comparer. C'est pas, voilà, on doit viser un chrétien comme ça, un chrétien saint, c'est un chrétien comme ça. Puis parfois, hein, c'est arrivé dans l'histoire ou dans des églises qu'on ait bien une liste du bon chrétien. Chrétien saint, qui ne fume pas. Alors il y a une époque, c'était qui n'écoute pas du rock. Enfin, il y en avait tout un tas de critères. Mais non, on part chacun d'un endroit différent. Je me souviens, il y a quelques années, un ami qui partait vraiment de très loin, le pauvre, qui avait été dans des fonds. Et le Seigneur avait fait une œuvre extraordinaire dans sa vie. Et une fois, quelqu'un critiquait quelque chose dans sa vie qui n'était pas en ordre. Et je me souviens avoir dit, mais si tu savais le chemin qu'il a déjà parcouru avec le Seigneur, est-ce que toi, tu peux dire que tu en as fait autant ? On ne peut pas comparer là où on en est maintenant. Ce que Dieu regarde, c'est la progression avec lui. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui vient habiter en nous au moment où nous donnons notre vie au Seigneur, où nous nous mettons en route avec le Seigneur et qui fait grandir en nous la vie de Dieu. Nous lisons ça en Romains 8. Vous pouvez lire tout le chapitre 8 qui parle de la vie de l'Esprit en nous. Et Romains 8, 6 dit « Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. » La sanctification, notre sanctification, découle de notre soumission à l'action du Saint-Esprit. Juste une petite parenthèse sur cette fin de phrase. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça ne peut pas vouloir dire qu'il faut atteindre un certain degré de sainteté ici sur cette terre pour pouvoir voir le Seigneur après. Parce que la Bible est claire à ce sujet-là, que d'abord ça sera impossible, donc ça veut dire personne ne pourrait voir le Seigneur. Et c'est vrai, personne ne sera assez digne de voir le Seigneur s'il n'est pas couvert par le sacrifice de Christ. Et juste, on ne va pas s'attarder longtemps sur cette phrase, mais je vais vous donner un verset qui est clair, à mon avis. C'est un verset qu'on trouve dans 1 Jean, au chapitre 3, versets 2 et 3, et qui dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il, donc Jésus, hein, lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, seulement lorsqu'il paraîtra, parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » C'est en Jésus-Christ que nous avons l'assurance que lorsqu'il paraîtra, alors nous serons dans un état de sainteté semblable à lui et nous pourrons le voir et voir Dieu. Deux objectifs, mais qui sont liés. La paix va de pair avec la sanctification. Il y a un verset parallèle dans Romains 14, 19, qui dit « Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et l'édification mutuelle, c'est-à-dire et à nous faire grandir les uns et les autres dans la foi. » La paix et l'édification, la paix et la progression dans notre marche avec Dieu vont ensemble. C'est dans nos relations avec nos frères et sœurs que se manifeste notre progression. Marcher sur les traces de Jésus-Christ, c'est apprendre à aimer, apprendre à servir, apprendre à pardonner, apprendre à favoriser la paix, apprendre à s'édifier mutuellement. Les deux sont liés. Notre préoccupation ne doit pas seulement être notre propre progression, mais aussi la progression de nos frères et sœurs. Et en cherchant à favoriser la paix, en cherchant à être en paix avec tous, nous devons aussi avoir la préoccupation de ce qui nous édifie mutuellement. Ça veut dire aussi que dans notre souci de maintenir la paix, nous devons nous poser la question, est-ce que cela édifie la communauté ? Est-ce que ça édifie la personne ? Est-ce que cela m'édifie ? Deux objectifs, deux moyens. Et les moyens, on les trouve au verset 15. Premier moyen, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Une autre traduction dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. J'aime beaucoup cette traduction parce qu'une privation, ça montre à quel point on se prive de quelque chose de bon, de juste, d'important. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le premier moyen, il est dans notre relation avec Dieu, dans notre relation verticale. Laissons le canal de la grâce ouvert pour que l'Esprit de Dieu puisse faire son œuvre. La grâce, c'est le pardon de Dieu qui nous libère notre culpabilité. La grâce, c'est l'acceptation pleine et sans condition, autre que de nous offrir à Dieu. La grâce, c'est la valeur immense à ses yeux. C'est notre statut d'enfant chéri de Dieu. C'est elle qui ouvre notre cœur au travail du Saint-Esprit, qui nous révèle alors le fond de notre cœur, qui nous révèle notre difficulté à aimer vraiment, qui nous conduit à la repentance et à la volonté de progresser dans l'amour. La grâce nous rend capables à notre tour de pardonner. Elle nous donne une assurance qui nous rend moins vulnérables aux flèches des autres. Et là, je vais dire quelque chose qui me touche. Refuser de laisser le Saint-Esprit pénétrer les recoins de notre cœur, c'est se priver de la grâce libératrice de Dieu. S'accrocher à nos rancœurs, comme à une bouée de sauvetage parfois, c'est dire à Dieu que l'on préfère gérer seul nos blessures. C'est refuser de dépendre de sa grâce. C'est un péché qui nécessite une repentance. Refuser l'accès de certains recoins de notre cœur pour que sa grâce et son esprit fassent leur œuvre génératrice, c'est un péché qui nécessite une repentance. Laissons le canal de la grâce ouvert, libre de tout obstacle. Et c'est à ça qu'il nous faut veiller. Veillons à ce que ce canal entre nous et Dieu soit ouvert et sans obstacle. Et un des obstacles, bien, on le voit dans la deuxième partie du verset. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Ce verset nous met en garde contre les racines d'amertume qui peuvent se développer et finir par empoisonner l'Église. Et là, on est dans la relation horizontale, j'allais dire, hein, entre nous et les autres. Mais c'est lié avec le fait de se priver de la grâce. Des relations empreintes d'une véritable paix nécessitent un nettoyage en profondeur. La particularité des racines, on l'a appris à nos dépens, maintenant qu'on a un jardin, c'est que tant qu'elles n'ont pas poussé suffisamment pour sortir de la terre, elles ne se voient pas. Et elles peuvent parfois être très longues et très profondes, surtout celles des mauvaises herbes. Et j'ai été frappée cet été de me rendre compte qu'on va désherber son jardin et puis on tire sur une petite pousse qui est comme ça. Et dessous, vous avez une racine comme ça. C'est impressionnant. Et je me disais, mais je comprends que alors que cet été, il y a eu quand même une grosse chaleur, eh bien, le gazon, lui, il est tout jaune, mais alors les mauvaises herbes, elles restent vertes. Comme nous, on avait beaucoup de mauvaises herbes, on avait une pelouse bien verte tout l'été. C'est impressionnant la longueur des racines alors qu'on ne voit pas grand-chose des fois à la surface. L'auteur nous met en garde contre ces racines d'amertume qui peuvent grandir dans le secret de nos cœurs, parfois sous une surface apparemment paisible, mais qui finissent toujours un moment ou un autre par pousser au-dessus de la surface et qui deviennent une source d'infection, d'empoisonnement pour l'Église. Alors l'amertume, j'ai cherché dans le dictionnaire, et j'ai trouvé cette définition que je trouve intéressante. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur lié à une humiliation, une déception ou une injustice de la vie. L'amertume, c'est un sentiment qui s'installe dans la durée. Elle provient généralement d'une situation qui soit n'a pas été réglée, soit a été réglée d'une façon qui n'est pas satisfaisante pour nous. Les chrétiens devraient toujours avoir à cœur d'assainir leurs relations, mais aussi le fond de leur cœur. En Proverbe 4, 23, nous lisons « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si mon cœur est infecté par ces racines d'amertume, alors les sources de la vie qui sont censées en jaillir seront infectées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et l'ennemi s'emploie à semer régulièrement des racines, des graines d'amertume dans notre cœur. Et nous devons veiller à ne pas laisser germer ces graines. Éliminer toute racine d'amertume, je vous suggère trois pistes. Première chose, ne jamais laisser irrésolue une situation sans avoir tout tenté pour la résoudre. Faire comme si de rien n'était. Croire qu'il suffit de laisser passer le temps, éviter d'aborder les sujets qui fâchent, peut être une erreur grave. Un conflit qui aboutit sur un statu quo générera de l'amertume. Dieu nous exhorte à une vraie réconciliation et qui ne peut avoir lieu qu'avec demande de pardon et pardon réciproque. Deuxième piste, justement, c'est vivre le pardon et la réconciliation. C'est une occasion de grandir avec Dieu, pour celui qui a offensé ou qui a blessé, parce que ça lui permet de prendre conscience aussi de son attitude, de ce qui a pu blesser, de pourquoi il n'a peut-être pas eu cette intention, et de pouvoir grandir. C'est aussi une occasion de grandir pour la personne qui a été blessée, d'apprendre à ne pas se replier sur elle-même, mais d'apprendre à parler, à communiquer, à pardonner. Paul dit aux Éphésiens, en 4:32, « Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et là, ce qui est intéressant, c'est que pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Dieu, lui-même, offre son pardon aux pécheurs repentants, qu'il a d'abord convaincu de péché par son esprit. C'est la prise de conscience de notre faute qui nous amène à la repentance et qui nous amène au pardon de Dieu. Parce que le prix a été payé par Jésus-Christ. Dieu ne fait pas comme si notre péché n'était pas grave. Au contraire, par le prix qu'il a payé, il nous montre la gravité de notre péché. Mais quand il y a repentance, alors il y a pardon total. Total. Dieu ne reviendra plus dessus. Dieu ne reviendra plus nous reprocher ce qu'il nous a déjà pardonné. On n'en parle plus. Vivre le pardon et la réconciliation, ça veut dire reconnaître la situation. Si elle est grave, reconnaître la gravité de la situation. C'est essayer de conduire à une repentance et à un pardon. Et quand il y a pardon, il y a pardon total. On ne revient plus sur la situation. En Matthieu 5, 23-24, on voit que pour jouir de notre réconciliation avec Dieu, il faut déjà être réconcilié avec les autres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, dit Jésus, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens présenter ton offrande. Pour pouvoir jouir de notre réconciliation avec Dieu, nous devons être réconciliés aussi avec les autres. Et si une situation ne peut pas être résolue de façon satisfaisante, ça arrive que des situations semblent bloquées. Alors sachons abandonner notre ressentiment entre les mains de Dieu, qui juge avec justice et qui est souverain dans son Église. Et dernier point, dernière piste, et non des moindres, je pense, c'est soigner notre susceptibilité. Et là, je pense, je touche un point important, parce qu'au cours de mes années dans les Églises, comme à l'intérieur de notre couple, j'ai remarqué que bien des blessures ont comme origine notre susceptibilité. J'en suis même arrivée à la conviction que la majorité des rancunes et des tensions dans une église sont liées à la susceptibilité. Alors qu'est-ce que c'est la susceptibilité ? C'est ce qui nous pousse à ressentir une parole ou un geste comme une offense. Elle déforme notre interprétation des faits en les attribuant à une mauvaise disposition de l'autre à notre égard. Oh là là, il m'a regardé de travers, ou il ne m'a pas dit bonjour, c'est parce qu'il me fait la tête. Ou, oh là là, il m'a dit ça, mais avec un ton tellement sec, qu'est-ce qui se passe ? Or, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, hein, les paroles maladroites ou les actions peuvent être expliquées tout autrement et ça n'a souvent rien à voir avec nous. Ça peut être un souci d'aider, d'encourager, d'exhorter. On va dire quelque chose et la personne le prend comme un jugement ou comme un reproche alors qu'on avait envie d'aider. Ça peut être quelque chose de tout simple. Moi, je suis capable d'arriver le matin par cette porte, de me diriger à ce but et d'être passée devant vous sans vous avoir dit bonjour. Parce que je suis déjà dans mon truc. Et tout à coup, ben, c'est pas que j'ai pas voulu vous dire bonjour, c'est pas que... Mais je vous ai pas vu. Et même si mes yeux se sont posés sur vous, je ne vous ai pas vu. C'est ça qui est terrible. Et je dis ça, c'est parce que des gens m'en ont voulu. Et des fois, j'ai découvert des mois après que des gens avaient été blessés parce que je ne leur avais pas dit bonjour en traversant une salle. Et je sais que je suis comme ça. C'est terrible. J'essaye de m'amender, je vous assure. Je progresse. Il faut me le dire, je progresse. Mais ça n'a rien à voir avec la personne. Vous savez, un malentendu, c'est quelque chose qui est mal entendu, qui est entendu de travers. Faisons attention au malentendu. Parce que le résultat, c'est que finalement, nous offensons régulièrement des personnes sans nous en rendre compte, ou nous pouvons être offensés par des personnes qui ne sont même pas conscientes que vous avez mal pris quelque chose. Et parfois, on découvre avec stupéfaction, des mois, voire des années après, que quelqu'un avait une rancune contre vous. C'est terrible. 1 Corinthiens 13, 5. J'aime beaucoup ce verset. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une définition de la naïveté, vous savez. On n'imagine même pas que quelqu'un puisse faire du mal. Mais je pense que le sens même de ce verset, c'est dire: quand j'aime mon frère ou j'aime ma sœur, je ne pars pas du principe que son action, que sa parole, et tu veux me faire du mal. Et dans un couple, c'est important, c'est encore plus vrai dans un couple. Je veux dire, si on s'est mariés ensemble, c'est parce qu'on s'aime. Et s'il m'a blessée en me disant quelque chose, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas. C'est parce que ben, moi, j'ai été blessée, qu'il a été maladroit. Et ça, le jour où on a réalisé qu'il fallait partir du principe que l'autre nous aimait, et que donc, si on a été blessé, il faut s'expliquer. C'est qu'il y a eu un malentendu. C'est qu'il y a quelque chose qui a mal été, justement, avant qu'on rentre dans des paroles vraiment blessantes. Tout à coup, on peut commencer à vraiment communiquer. Si nous nous sentons blessés par un propos ou un geste, accordons le bénéfice du doute à la personne. Et si cela ne suffit pas à apaiser notre sentiment, allons en parler avec cette personne, pas avec la personne d'à côté, pas avec une autre personne, avec cette personne. Souvent, ça suffira à une réconciliation. Et ça aura permis à ces personnes, finalement, de progresser en communiquant plus profondément. Laissons le Saint-Esprit nous éclairer sur les causes réelles de nos blessures et nous soigner peu à peu notre susceptibilité. En conclusion, nous sommes tous en chemin. Et aucun n'est arrivé. Je ne suis pas arrivée. Alors soyez indulgents. Nous sommes tous en chemin et aucun n'est arrivé. Un chrétien est un chrétien en marche, en progression. Un chrétien qui ne marche pas, c'est soit qu'il est mort, donc lui il est déjà arrivé, c'est soit qu'il n'est pas chrétien, ou il est de nom. Un chrétien vivant est un chrétien en marche. Une foi vivante, c'est une foi qui me met en mouvement. Alors avançons ensemble, sans jugement, mais en nous encourageant notre marche avec le Seigneur et en nous édifiant mutuellement. Recherchons la paix avec tous, une paix véritable, courageuse, soucieuse de la justice et de l'édification de la communauté. Sachons démasquer l'amertume qui est au fond de nos cœurs et nous soumettre à l'action libératrice du Saint-Esprit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.